des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. On pensait l'aventure morte depuis que le monde entier est dûment cartographié. Eh bien non, la littérature vient nous dire qu'elle n'est pas morte, l'aventure. Et aujourd'hui, c'est le vent du large qui souffle dans notre studio. Le vent de l'aventure, c'est notre thème aujourd'hui, avec trois livres qui nous mèneront sur les traces des pêcheurs de la mer de Bering, sur celle de Napoléon aussi, l'empereur, et enfin à la poursuite des baleines et de trous dans la croûte terrestre, par où, en tout cas, la fiction s'engouffre. Jean-Paul Kaufmann, Catherine Poulain et Christian Garcin sont mes invités. Bonjour Jean-Paul Kaufmann.
Bonjour.
C'est mon deuxième voyage à Hello, même sensation que la première fois, un carambolage, une curieuse façon d'être bousculé sans heurts, une sorte d'enchevêtrement qu'il sera difficile de dénouer. Ainsi débute, ou presque, votre livre Outre-Terre, que vous publiez aux éditions des Équateurs. Hello, nos éditeurs reconnaîtront évidemment le nom de la bataille menée par Napoléon le 8 février 1807 en Prusse orientale. L'empereur reste maître du terrain, mais au prix de très lourdes pertes. Victoire ou défaite d'abord, Jean-Paul Kaufmann ?
Je dirais les deux, mon capitaine. Et c'est une victoire dans la mesure où le Napoléon est resté maître du champ de bataille. Mais c'est une victoire incertaine. C'est une moitié de défaite.
Voilà, donc en tout cas littérairement c'est intéressant. L'aventure d'Hello, c'est le choc d'une histoire et d'une géographie, puisque le site de la bataille se trouve dans l'enclave russe de Kaliningrad, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, séparé de la Russie par la Lituanie. C'est dans cette outre-terre que vous vous rendez pour vivre une aventure familiale, avant d'être une aventure de l'écriture, qui a produit ce livre, où vous retracez le périple qui vous a mené avec votre famille, donc sur les traces du colonel Chabert, héros balsacien, mais d'abord héros napoléonien, donné pour mort lors de la charge de cavalerie de Murat. Qu'est-ce qui a déclenché cette aventure, Jean-Paul Kaufmann, finalement, à la poursuite d'un fantôme ?
Il y a ce voyage dont vous parliez, premier voyage que j'ai effectué en 1991, quelques mois avant la fin de l'Union soviétique. Donc je suis allé dans ce pays étrange, l'enclave de Kaliningrad, qui n'est autre que l'ancienne Prusse orientale. Et j'ai fait la découverte, un peu par hasard, de ce champ de bataille d'Hello.
Par hasard, vous ne le cherchiez pas
Non, j'étais allé pour savoir, personne ne savait ce qu'était devenu la ville de Königsberg, où est né, où a vécu Kant notamment. C'est une ville qui est très chère aux Allemands, elle est devenue russe, et c'était un pays interdit. Jusqu'en 1991, les Russes ont donné les premiers visas, donc je voulais savoir ce qu'était devenu cette ville qui résonne un peu comme Strasbourg pour nous, dans le cœur des Allemands.
Ou Kaliningrad, là, c'est la même ville rebaptisée.
Oui, c'est la même ville, oui, qui a son nom tire son origine d'un compagnon de Staline, et il n'y a plus aucun Allemand. C'est-à-dire qu'en 1945, Staline a purement et simplement annexé cette Prusse orientale. Le sud a été attribué à la Pologne. Donc il y a des missiles nucléaires,
c'est des bases,
des bases militaires très importantes, et c'est la raison pour laquelle que personne ne savait ce qu'était devenu cette ancienne Prusse orientale.
On va l'explorer avec vous. Bonjour Catherine Poulain.
Bonjour.
Vous êtes en face de moi, légèrement sur ma gauche. Vous publiez Le Grand Marin aux éditions de l'Olivier. C'est votre premier roman. Un premier roman qui casse tout, ça souffle dans tous les sens, ça s'agite sur la mer de Bering où pêche votre héroïne Lily. Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska, nous dit ce texte en préambule, mais vous ajoutez, mais y arriver, à quoi bon ? C'est une très belle phrase qui résume ce qu'est l'aventure, un mouvement, un chemin, dont l'issue finalement peut être importe peu. C'est un texte qui est écrit à la première personne et une femme raconte comment elle est partie en Alaska à bord de ces bateaux qui vont pêcher la morue noire, le crabe, le flétan. Ces bateaux où l'on vit une vie d'homme, où l'on a froid, où le sel brûle la peau, mais où l'alcool des bars réchauffe quand même un peu, Catherine Poulain.
Oui.
Alors, le lecteur est plongé dans l'aventure comme Lily s'y plonge. Il est question d'aventure dans tous les sens, avec le sens aussi second du mot aventure. Avoir une aventure du cœur, une aventure du corps, avec ce grand marin que le titre nous présente. Vous qui avez, Catherine Poulain, comme votre héroïne, pêché pendant 10 ans en Alaska, qui avait été... Alors, c'est votre éditeur hein, qui trahit le secret en quatrième de couverture, barmaid à Hong Kong et aujourd'hui bergère dans les Alpes. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette autre aventure qui était l'écriture d'un roman?
J'ai écrit toute ma vie. Toute ma vie, j'ai tenu des cahiers, donc ce n'était pas vraiment nouveau. J'ai vécu énormément de choses et j'avais l'impression que ma vie devrait être le matériau pour en faire quelque chose un jour. Donc je tenais ces cahiers pour garder une trace, pour que ça serve plus tard et pour être témoin, mais témoin de quoi? Je ne sais pas. Il y avait une urgence là-dedans. J'ai commencé, j'ai des ébauches de manuscrits depuis mes 20 ans, donc j'en ai des piles. Et enfin, il m'a été donné la chance de pouvoir m'arrêter de travailler quelques mois, parce que je fais des travaux physiques qui sont très très prenants, et on a beau le vouloir, on n'a pas la tête à ça, on peut plus, lorsqu'arrive le soir. Et donc il m'a été donné cette chance, et j'ai pu enfin aller au bout du premier, qui n'est pas le premier, mais qui pour moi est le premier, parce que c'est le commencement du plus important, du plus puissant dans ma vie.
Merci Catherine Poulain. Enfin bonjour Christian Garcin.
Bonjour.
Voilà, vous êtes à la gauche de Catherine Poulain, en face de moi, légèrement sur la droite. Vous publiez Les vies multiples de Jeremiah Reynolds, c'est chez Stock. Jeremiah Reynolds, c'est un homme qui a existé, qui a connu une grande fortune littéraire un peu à son insu, puisqu'il aura été l'inspirateur des aventures d'Arthur Gordon Pym, hein, le texte d'Edgar Poe, et l'inspirateur peut-être, on le verra avec vous, de Melville pour Moby Dick. Vous suivez sa vie aventureuse depuis sa naissance en Pennsylvanie jusqu'à son exploration de l'Antarctique, depuis son rôle de chef militaire chez les Indiens Mapuche jusqu'à sa mort dans un cottage du Bronx, au moment même où paraissait en France la traduction par Baudelaire des aventures d'Arthur Gordon Pym. Comment vous êtes tombé sur cet aventurier donc du 19e siècle, Jeremiah Reynolds?
Par l'intermédiaire de la poste. J'ai reçu chez moi un petit livre signé Jeremiah Reynolds, dont le titre
comme
était...
Comme ça, le livre vous arrive, c'est
non,
la chance.
Le traducteur est un ami et il m'a envoyé ce livre-là. Un tout petit livre qui s'appelle Mocha Dick. Mocha étant le nom d'une île au large du Chili. Mocha Dick étant le nom, le surnom donné à un grand cachalot albinos dont la chasse était un enjeu important pour beaucoup de gens à cette époque-là, qui a été publié 14 ans avant Moby Dick de Melville. Et dans l'introduction que faisait le traducteur, Thierry Gilibeuf, de ce petit livre...
À qui vous dédiez votre texte.
Oui, voilà, ouais, parce que sans lui, effectivement, c'est grâce à lui que j'ai connu et rencontré Jeremiah Reynolds. L'introduction qu'il en faisait m'a, à plusieurs niveaux, m'a agrippé, m'a harponné, comme un harponne, un cachalot, si vous voulez, au niveau des dates, au niveau des thèmes, au niveau du mystère aussi qui entourait la relation entre Poe et Reynolds. Et donc, j'ai abandonné le manuscrit sur lequel je travaillais pour me plonger dans l'élaboration de celui-ci et courir à la poursuite de ce Jeremiah Reynolds.
C'est une sorte de tombeau pour Jeremiah Reynolds, et un côté aussi, on lui rend justice.
Oui, il y a peut-être un peu ça. C'est vrai que ces personnages qui ont côtoyé les plus grands, qui ont eu une importance sans doute à divers égards au niveau de l'aventure, justement, parce que c'est le thème de l'émission, parce que c'est peut-être le premier homme au monde, enfin avec quelques camarades naufragés comme lui, peut-être le premier homme au monde à avoir mis le pied sur le continent antarctique en 1829, à avoir connu et influencé Edgar Poe, à avoir possiblement influencé Melville, ce qui n'est pas certain, mais ça peut
se faire. On y reviendra. On élucidera le mystère.
Voilà, ces gens comme ça qui ont eu des vies absolument incroyables, qui ont côtoyé des... et puis qui sont totalement tombés dans l'oubli, effectivement, ça fait plaisir de les exhumer un peu et de les remettre au goût du jour.
Merci à tous les trois de participer donc à cette émission dont le thème est l'aventure. Il faut toujours être en route pour l'Alaska. Je citais la première phrase, votre première phrase, Catherine Poulain, cette première phrase du grand marin que vous publiez. Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska, mais y arriver, à quoi bon? J'ai fait mon sac. J'y ai vu, moi, une définition de la littérature. Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska. On pourrait remplacer Alaska par Courland, ça c'est pour Jean-Paul Kaufmann, ou par Vladivostok ou Baïkal, pour vous, Christian Garcin. Qu'en pensez-vous, tous les trois? Alors, d'abord, peut-être que Catherine Poulain. Finalement, l'écriture comme un départ vers un territoire forcément lointain, mais surtout parce qu'il y a un nom comme Alaska, Kipling, c'était Mandalay, par exemple, qui stimulent immédiatement l'imaginaire de l'écrivain. Catherine Poulain.
Oui. D'abord, l'Alaska, on appelle ça aussi « the last frontier », la dernière frontière. Et déjà, ça fait rêver. Puis on sait que de toute façon, c'est un pays encore, lorsque j'y étais, encore immense, encore vierge, encore... Et donc, c'est la limite. Il faudrait toujours être en route vers l'absolu, la limite.
Vous êtes d'accord avec ça, Christian Garcin ?
Oui. Oui, et notamment sur le fait que c'est une bonne définition de la littérature, oui. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, l'important, c'est aussi un précepte bouddhiste, hein, donc un précepte de vie. Hein. L'important, ce n'est pas tellement le but, c'est le cheminement. Quoi. Donc, finalement, être toujours en direction de...
Ouais, une conception bouddhiste de la littérature.
Voilà, alasco-bouddhiste.
Voilà. Jean-Paul Kaufmann, je pensais à une phrase de Jean-Paul Sartre dans La Nausée. Pour que l'événement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu'on se mette à raconter. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Ou à l'inverse, est-ce qu'il faut, pour qu'il y ait aventure, que ça ne soit précisément pas banal? Une bataille fracassante, hein, Hello, un bateau lancé au milieu de la mer de Bering, ou une vie d'aventurier comme celle de Jeremiah Reynolds?
Bah justement, Sartre dit à plusieurs reprises, il faut choisir, hein, on raconte ou l'on vit. Mais est-ce qu'on peut faire les deux? Tout le problème est là. Mais enfin, bon, c'est vrai que l'aventure, ça peut commencer avec des mots, avec des noms. En effet, moi j'ai écrit un livre, vous en parliez là tout à l'heure, Courland. Ce mot me faisait rêver et j'ai voulu y aller voir de plus près. C'est comme ça que les choses ont commencé. Peut-être aussi le mot Königsberg me faisait rêver. Et voilà, c'est ainsi que l'aventure commence.
Alors, le mot aventure est un mot immédiatement fécond dès lors qu'on y... pas seulement d'ailleurs, mais encore plus quand on lui accole le mot roman ou récit, quand c'est dit un roman d'aventure, récit d'aventure, et là ça y est, les images héroïques surgissent, se catapultent devant nos yeux d'enfants éternels, Perceval et les chevaliers de la table ronde, Ulysse et les sirènes, Jason, les argonautes, D'Artagnan qui poursuit Rochefort, Achab qui poursuit Moby Dick, j'en oublie, Walter Scott, Ivanhoé, Jules Verne, Conrad au cœur des ténèbres. Est-ce que votre envie d'écrire ces romans, ces récits, puisque sur le genre, on va creuser aussi la question, a été influencée, portée par ces grands romans d'aventure, de la littérature, de la chanson de geste médiévale, à Conrad, hein, que je mentionnais, Catherine Poulain?
Je ne pense pas. J'ai beaucoup lu enfant, j'ai eu cette chance, mais je pense que c'est un désir plus physique. Le besoin d'aller voir, le besoin de sentir ce monde, de le prendre à bras le corps, de se jeter à fond dedans. Et c'est vrai que j'ai adoré tous les récits d'aventure, j'ai adoré les histoires de la découverte de l'Antarctique. Mais enfant, ça m'a fait vibrer. Mais ce n'est pas ça, ça n'a pas été le moteur. Le moteur est venu de...
Et aventure, il y a un autre sens intéressant qu'on repère dans l'expression dire la bonne aventure, par exemple, c'est la notion de hasard aussi, de ce qui doit advenir. Est-ce que finalement, elle n'a pas joué plus à plein que la véritable construction d'un récit ? Christian Garcin, par exemple.
Ça peut se faire. Mais je ne crois pas qu'il y ait une seule explication, une seule raison,
évidemment.
Bien entendu. Donc, le hasard peut jouer, mais aussi le goût de l'onomastique, comme disait Jean-Paul Kaufmann, c'est vrai qu'aller vérifier... On voyage dans les noms avant de voyager dans les lieux. Hein. Donc c'est très important de se rendre à Königsberg, de se rendre à Vladivostok, de se rendre en Alaska. Ce sont des noms qui, à divers égards, font rêver, peut-être par des considérations personnelles, familiales, des lectures qu'on a eues. Donc d'aller vérifier si le décalage entre le réel et l'imaginaire est important ou pas.
On va aller vérifier, en tout cas, ce qui se passe du côté de Königsberg, de la bataille d'Elo, avec vous, Jean-Paul Kaufmann. On part outre-terre, c'est le titre de votre livre qui paraît aux éditions des Équateurs. D'abord, on écoute votre choix musical, c'est l'Andantino de la sonate en La majeur de Schubert, interprété par Alfred Brendel.
Thank you.
L'Andantino de la sonate en La majeur de Schubert, interprété par Alfred Brendel. C'est le choix de Jean-Paul Kaufmann, qui publie aux éditions des Équateurs, Outre-Terre. Jean-Paul Kaufmann, pourquoi ce choix? Ça m'a rappelé un film.
Bah oui, ça accompagne la fameuse charge de Murat, puisqu'on dit que à Eylau a eu lieu la plus grande charge de cavalerie de toute l'histoire militaire européenne. Donc ce film de Yvan Gélo,
dont on peut rappeler le titre,
le colonel Chabert. Et il y a une scène, en effet, c'est une scène, d'ailleurs je l'ai rencontré par la suite, Yvan Gélo, il n'avait pas l'intention à l'origine d'illustrer ce moment de la charge. C'est très beau parce que il y a cette violence de la charge et puis cette musique extrêmement douce et en même temps funèbre, et puis quelque chose, lui il l'avait choisi parce qu'il avait l'impression justement que on n'avançait pas, que c'était une sorte de mouvement perpétuel, enfin donc voilà.
En dans le sino quand même, on avance,
oui.
Un peu. Voilà.
Un petit peu. Oui, voilà.
Vous publiez donc Outre-Terre aux éditions des Équateurs. Outre-Terre, c'est le nom que porte ce territoire enclave, hein, l'enclave russe, jadis allemande, de Kaliningrad, anciennement Königsberg, donc vous en parliez, la patrie de Kant. Kaliningrad qui a servi de site à l'une des plus formidables batailles de l'ère napoléonienne, notamment, vous le rappeliez, à cause de cette charge de cavalerie absolument dantesque de Murat. Cette bataille, elle a eu lieu le 8 février 1807, c'est la bataille d'Eylau, où Napoléon a failli tout perdre. Et que le baron Gros a peint tout à fait romanesquement. Ce site d'Eylau, vous y êtes rendu, Jean-Paul Kaufmann, en prétextant la célébration du 200e anniversaire de la bataille, et vous y êtes rendu en famille. C'est ce voyage que vous racontez, voyage millefeuille, à la fois géographique, temporel, familial, littéraire, pictural, qui s'enracine d'abord dans un paysage, celui de ce territoire, vous le rappelez, où l'on ne pouvait pas aller jusqu'en 1991, parce qu'il y avait des bases sous-marines russes, des bases nucléaires. L'écrivain, Jean-Paul Kaufmann, il est pour vous d'abord un explorateur de zones grises.
Bah, moi, c'est ce que j'aime, c'est ces lieux périphériques, j'allais dire excentriques, mais en même temps, c'est toujours des lieux, bon, un peu clos. Donc, c'est un peu par hasard que j'ai découvert ce site de la bataille. Quand je me suis intéressé à Sainte-Hélène, quand j'ai fait ce livre « La chambre noire de Longwood », je me suis aperçu que Napoléon n'avait absolument pas envie qu'on parle de cette bataille. Il s'était passé quelque chose et je crois qu'en effet, il a failli tout perdre.
Pourquoi prendre la famille avec vous? Qu'est-ce que
bah,
ça impliquait?
D'abord parce que j'avais besoin peut-être de la bonne humeur familiale pour affronter un peu ce pays quand même qui est déglingué, qui est, bon, il faut bien le dire, assez sinistre, mais ça me plaisait beaucoup. J'aime bien ces destinations improbables et au mois de février, il faisait moins 15, à peu près la même température que le jour de la bataille. Donc, bon, on a été longtemps séparés, j'avais peut-être besoin de... Et puis surtout, nous, quand on aime voyager ensemble parce qu'on se laisse beaucoup aller. Je raconte ces 4 jours. Je pensais qu'il allait avoir personne. Et puis, ça a été un peu ma stupéfaction de voir que les Russes célébraient cet événement. Donc, je me suis dit, bon, pour eux, c'est une victoire. Pour les Français aussi, alors c'est un peu compliqué.
Pourquoi revenir à Napoléon, qui était, vous le rappeliez, déjà le protagoniste de la chambre noire de Longwood, qui faisait d'ailleurs écho à votre propre histoire d'enfermement, hein, d'otage, hein, au Liban de 85 à 88. Qu'est-ce qu'il incarne, ce personnage napoléonien? C'est le premier des personnages napoléoniens.
Bah, d'abord, moi, ce que j'aime chez Napoléon, c'est, je n'aime pas du tout les batailles comme Austerlitz, tout ce qui est évident. Là. Et ce que j'aime, moi, c'est la fin, notamment. Et rien ne me prédisposait à m'intéresser à Napoléon. Je suis allé à Sainte-Hélène, j'avais écrit ce livre sur les Kerguelen. Et c'est tout à fait par accident que j'ai commencé à m'intéresser à Napoléon. Et ce qui m'intéressait, en effet, c'est la fin. Dans ce livre, j'ai parlé de Longwood, où il a passé ses 5 dernières années. Et ce qui m'intéressait dans cette maison de Longwood, qui est intacte, c'était la baignoire, où Napoléon a passé quasiment les 2 ou 3 dernières années de sa vie. Et c'est ça qui me plaisait, c'est l'homme nu, l'homme désarmé, l'homme vaincu. Et l'eau m'intéresse, m'a interpellé, comme on dit, peut-être parce que c'était justement, c'est une victoire incertaine, c'est une semi-défaite. Et,
c'est pas l'aventure napoléonienne finalement, c'est la fin de cette aventure qui vous passionne plus
oui.
que l'élan chatoyant, flamboyant.
Oui, puis peut-être aussi, je sais pas, une sorte de, une forme d'échec aussi peut-être.
De limite romanesque finalement qu'atteint le personnage.
Oui, mais il y a Napoléon et puis il y a aussi ce personnage quand même du colonel Chabert l'homme qui est donné pour mort et puis l'homme qui revient et on veut pas le reconnaître. Il dit je suis vivant, il le répète et sa femme s'est remariée, l'empire s'est terminé et c'est une histoire absolument extraordinaire.
Christian
Garcin la connaît très bien. Oui. Et, vous avez écrit sur le colonel Chabert, fait une introduction là dans l'édition de Flammarion.
Garnier Flammarion. Ouais.
Alors dites-nous pourquoi vous aimez
voilà,
Chabert.
Très bonne question de Jean-Paul Coffin.
Peut-être pour la bataille des Lots, je ne sais pas. En tout cas, qui a été quand même une bataille formidablement massacrante, c'est-à-dire qu'elle a elle a marqué les esprits. Alors, elle a peut-être été oubliée un peu par la suite, mais à l'époque, elle était vraiment synonyme de carnage. Et puis ce personnage de Chabert, qui est fabuleux quand même, qui est le premier des morts vivants quand même. Il est mort et il revient à la vie. En quelque sorte, il se rend compte que le monde ne veut plus de lui, et il retourne. Il accepte sa mort. En quelque sorte, c'est ça, hein, pour résumer le personnage. Et c'est vrai que ces gens qui viennent réclamer un dû, dans toute la littérature, y compris fantastique, le cinéma fantastique, et qu'à voir les morts vivants de Romero, par exemple, au cinéma, sont des gens qui viennent réclamer quelque chose, hein, qui sont toujours...
Au vivant,
exactement. C'est des laissés pour compte, c'est des rebuts de la société, c'est des gens dont la société ne veut plus. Hein, métaphoriquement, dans les films comme ça, ce sont des exclus, c'est des SDF, des immigrés, des... Voilà. Et ce personnage de Chabert est absolument formidable, je trouve. Moi, ça m'a beaucoup marqué.
Donc, le colonel Chabert comme le premier des morts vivants. Au cœur de ce livre, et d'ailleurs, des images sont là pour le prouver, il y a ce tableau du baron Gros hein, qu'on peut voir au Louvre et qui représente justement le lendemain. Hein, c'est le lendemain
oui,
de la bataille.
Oui, c'est le lendemain, 9 février.
Voilà. Et j'aimerais qu'on vous entende lire justement un passage de cette Outre-Terre qui est une ekphrasis, comme on disait quand on faisait des humanités, c'est-à-dire la description d'une œuvre d'art, et surtout votre regard sur ce tableau.
Je remarquais que peu de gens s'arrêtaient devant le tableau. Sans doute, la scène étonnait-elle, elle n'aimantait pas. Pour une seule raison, il faut en posséder les clés. On passe à côté si l'on ne connaît pas les circonstances. Ce n'est pas une scène de bataille, mais un lendemain de bataille. On se doute que cet homme, avec son chapeau bicorne, est bien Napoléon. Mais pourquoi étend-il ainsi la main droite? Salue-t-il quelqu'un? Non, bien sûr, le geste se veut hors d'atteinte, la main est gantée, apaisant, comme une sorte de dégel au milieu de cette neige grise, en apparence blanche, si noire, qu'elle fige l'ensemble du tableau. Quelle est alors la signification de ce mouvement? Faut donc comprendre l'orientation, le cimetière des Lots se prive de nombreux admirateurs. Dès qu'on en saisit l'esprit ou même la lettre, il se métamorphose et agit tel un champ magnétique traversé par les forces d'attraction comme la figure de l'empereur et de répulsion comme les blessés, les cadavres au premier plan. Beaucoup de détails troublants dans cette toile. La tête de l'ogre et surtout son regard absent. Absent est-ce bien le mot? Plutôt lointain. Il ne veut pas voir le champ de bataille, c'est le regard d'un mortel qui, quelques secondes plus tôt, a été frappé de stupeur. Médusé, des yeux d'outre-terre.
Merci Jean-Paul Kaufmann pour cette description hein, de la toile du baron Gros hein, qu'on peut voir au Louvre. On parlait de clés à propos de ce tableau. Il y a des clés, il y a des mystères, il y a un personnage devant l'église qu'on voit au fond. Quelles sont les clés qui vous relient finalement à cette histoire d'Elo?
Je pense que le sujet de ce tableau, c'est la figure de l'absence. Il y a quelque chose qui manque, et puis c'est aussi la figure de l'effroi. Et il y a plein de détails dans ce tableau, et notamment l'un des plus intéressants, c'est que Napoléon refuse de regarder le champ de bataille. Il veut pas voir. Il regarde vers le ciel, vers une étoile perdue. Et il y avait un cahier des charges extrêmement précis hein, que Napoléon avait fixé lui-même. L'Église, les mutilés, les morts au premier plan, et puis sa suite. Et puis après, les peintres avaient tout à fait la possibilité de faire ce qu'il voulait. Et Gros s'en est pas privé. Parce que il y a un certain nombre de détails qui sont absolument fascinants. C'est cette fameuse église où se tient un homme en noir, qui est sans doute la représentation, le double de Napoléon. C'est-à-dire qu'on voit Napoléon et puis on voit un autre homme, Napoléon, qui se tenait devant cette église d'Eylau où il a failli être capturé. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et puis ces arbres qui sont comme les croix du Golgotha qui ont été décapités, c'est vraiment... Alors c'est la peinture officielle, mais c'est un tableau absolument envoûtant.
Est-ce que vous sauriez, Jean-Paul Kaufmann, définir maintenant ce livre? Un moment, il y a un passage dans le livre où, dans une conférence, les gens vous demandent ce que vous faites. Est-ce que c'est un roman? Et vous répondez, non, je n'écris pas de roman. Alors c'est quoi? Un livre d'histoire? Un essai? Ni l'un ni l'autre, dites-vous. Et ce sera tout. Pourquoi ce refus du mot roman, un genre cannibale finalement, qui pourrait convenir à ça, qui pourrait convenir à ce que vous faites?
Oui, il n'y a pas d'étiquette, mais pourquoi faut-il donner à tout prix une étiquette? Appelons cela un récit. Je ne suis pas en mesure dans...
Un mot encore plus cannibale. c'est d'ailleurs ce qui vous réunit tous les trois. Il n'y a que Christian Garcin qui ose mettre roman, parce que Catherine Poulain, c'est pas non plus roman.
Je ne voulais absolument pas tomber dans le roman autobiographique. C'était très difficile de... Je voulais à la base faire un livre sur ces hommes qui se brûlent. L'enfant là qui surgit des bois, on voit un moment dans l'histoire, qui grandit dans les bois et ses enfants qui sont comme des jeunes lions là qui... Et qui continuent la course, et puis c'est la course vers la bière, c'est la course vers tous les feux, tout ce qui peut consumer. Je voulais parler de ce grand marin qui était en fait l'image de tous ces hommes.
La synthèse finalement?
Oui, oui. Mais je pense qu'il faut quand même un petit personnage là au milieu, il y a eu moi. Mais ce n'est absolument pas un roman autobiographique. J'aurais voulu que ce soit juste le fil directeur.
Pourtant, c'est à la première personne. Je, vous osez utiliser le jeu, paradoxalement.
C'était plus simple, oui. Mais ça, c'est l'apprentissage. Parce que ça donnait, je ne sais pas, dans celui-là, ça devait être jeu. Parce que c'est le commencement, c'est l'adolescence, et après vient l'âge adulte.
Donc c'est le roman d'adolescence.
C'est à la troisième personne. Ce sera la troisième
ça
personne.
Sera, ouais. Donc c'est le prochain. Donc ça c'est le roman d'adolescence.
Le prochain ce sera pas celui-là, mais il viendra plus tard.
Très bien, parfait. Alors ça s'appelle le Grand Marin. On va en parler avec vous évidemment, Catherine Poulain. C'est publié aux éditions de l'Olivier. D'abord on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Singapour de Tom Waits. Tom Waits, Singapour, c'est le choix de Catherine Poulain. Vous publiez Le Grand Marin aux éditions de l'Olivier. Singapour, bon, c'est pas loin de l'Alaska, mais quand même un petit peu. Pourquoi ce choix musical?
Pour le ton de la chanson, pour le ton de Tom Waits, ce ton âpre, ce ton rude. Et puis ces hommes qui embarquent et qui croient encore qu'ils vont trouver un Eldorado ou au moins gagner. Devenir riche, et en fait c'est un leurre. Quoi.
Voilà, oui, les pêcheurs sont aussi à un moment des chercheurs d'or. Il y a un des personnages qui dit, voilà, avant, vous cherchez quelque chose de plus pur encore.
Oui, un or autrement plus précieux, oui.
Vous écrivez en musique aussi, il y a une musique dans ce livre, une force, on entend les gens vraiment parler, la syntaxe est parfois tordue, on a vraiment l'impression d'être dans la vie, hein, dans ces bars, sur ces bateaux. Vous parlez vous-même de cette âpreté de la voix de Tom Waits, cette âpreté, on l'a aussi dans votre livre.
Oui, c'est intéressant parce que je me suis servi de mes cahiers, donc ça donne parfois un ton très bref aux phrases et très direct. Et j'aime aussi la musique des mots. Donc j'ai essayé de m'accrocher les wagons ensemble pour que ça... Et donc partir aussi dans des envolées. Parfois j'étais beaucoup trop lyrique, ça en était ridicule. Je me réveillais au matin, je partais dans des grands... Et je relisais, et je m'enregistrais, et je me mettais à rire. J'y mettais tombée complètement dans l'extrême.
Vous enregistriez
Oui, j'aime enregistrer pour sentir la musique. Il fallait essayer de trouver donc ce côté bref et direct, quoi.
Et en musique, parfois ?
Non. Ouais. Parfois dans ma petite cabane de pêche sur l'estuaire. Alors là, j'avais quand même les sons de la mer.
Christian Garcin voulait vous poser une question, d'ailleurs, pendant Tom Waits.
Ah oui.
Si, voilà, vous souleviez un paradoxe chez elle.
Oui, je me disais que le fait justement de ne pas écrire roman en page de garde, ça pouvait laisser penser à un lecteur qu'il s'agissait précisément d'un récit autobiographique, donc de ce que vous vouliez précisément éviter.
À cause de la première personne, en fait.
Oui, voilà. Ouais. Oui. Et puis, quand on sent bien, bon, il est question de Manosque au début, puis en quatrième de couverture, on se dit, tiens, elle travaille dans la salle de Haute-Provence, enfin, il y a des...
Oui.
Voilà. Donc, on se dit, bon, c'est pas un roman, donc c'est peut-être une autobiographie où elle a simplement changé le prénom.
Ce
bon,
que vous vouliez éviter, Catherine Poulain, et...
Eh bien, j'ai bien peur que... j'ai pas encore trouvé le moyen comment se détacher suffisamment de soi-même. En même temps, on a toute cette vie qui vous habite et qui vous encombre. C'est vrai que je pense que je l'ai préparé des années, mais je pense que je l'ai fait assez rapidement. Donc, je ne me suis pas trop posé la question, mais j'avais très très peur de cela, que cela devienne trop autobiographique. Et j'ai trouvé un peu trop souvent qu'on a fait l'amalgame entre le livre et ma propre vie. Mais est-ce que c'était évitable, je ne sais pas.
Alors on entre dans votre roman avec cette très belle phrase hein, que j'ai citée, qui fait résonner tant de choses dans l'esprit du lecteur. On devrait toujours être en route pour l'Alaska. Et dès les premières pages, nous sommes à Kodiak où Lily, c'est votre héroïne, c'est la narratrice hein, de ce livre, va embarquer pour aller pêcher dans des conditions extrêmes. L'aventure débute sans nous. On est plongé totalement, comme Lily est plongée en mer, plongée dans l'inconnu. Elle s'aventure dans un univers masculin, difficilement, mais avec une grande assurance. Il y a deux sections dans ce livre. Le cœur des flétans, d'abord, puis le grand marin. Dans la première partie du livre, la pêche occupe la place principale. Lily mange un cœur de flétan, d'où ce nom. Elle se blesse plusieurs fois, à la main, aux côtes, aux jambes. Et puis dans la deuxième, elle rencontre Jude, donc ce grand marin dont vous nous parliez comme une synthèse hein, de tous ces hommes. Peut-être synthèse de l'aventure aussi, Jude.
De l'aventure, je ne sais pas. Parce que tout dépend comment on le regarde. Pour certaines personnes, c'est un loser. C'est une loque, un pauvre alcoolique. Et pour elle, c'est le grand marin parce qu'il a cette... Elle y voit cette dimension mythologique.
Oui, elle aura donc Jude, elle aura une aventure amoureuse avec lui. D'une aventure à l'autre, c'est la vie qui est vécue comme une aventure, Catherine Poulain. C'est un peu l'injonction suprême pour votre narratrice. J'aimerais bien qu'on vous entende lire le début de ce grand marin, qu'on entende votre voix, qu'on entende cette langue aussi.
Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska, mais y arriver à quoi bon ? J'ai fait mon sac, c'est la nuit. Un jour, je quitte Manosque les plateaux, Manosque les couteaux. C'est février. Les bars ne désemplissent pas, la fumée et la bière. Je pars, le bout du monde, sous la grande bleue, vers le cristal et le péril, je pars. Je ne veux plus mourir d'ennui, de bière, d'une balle perdue, de malheur, je pars. Tu es folle, ils se moquent toujours. Toute seule sur des bateaux avec des hordes d'hommes, tu es folle, ils rient. Riez, riez, buvez, défoncez-vous, mourrez si vous voulez, pas moi. Je pars pêcher en Alaska, salut, je suis partie.
Merci Catherine Poulain, je pars pêcher en Alaska, salut, je suis partie. Il y a cette phrase, mourrez si vous voulez, pas moi, salut avec ce double sens hein, du mot salut. On part à l'aventure pour se sauver mieux, pour ne pas mourir quand les autres commencent le processus.
Oui. Oui, bon là on parle d'une balle perdue, donc il doit bien y avoir un danger physique. Mais il y a un autre danger qui peut sans doute beaucoup plus insidieux, c'est une résignation, la mort lente qu'on peut accepter. Mais...
De toute façon, écrit-elle, je m'en vais toujours. Ça me rend folle quand on m'oblige à rester dans un lit, une maison. Ça me rend mauvaise. Être une petite femelle, c'est pas pour moi. Je veux qu'on me laisse courir. On a l'impression que vous écrivez vraiment, Catherine Poulain, avec votre corps. C'est très physique, c'est très pulsé, c'est très compressé. On entend les voix, il y a ce mot courir qui revient tout le temps. Ça veut dire quoi, pour votre héroïne, ne pas être une petite femelle ? Une petite femelle, c'est un animal qui appartient au sexe apte à produire des ovules. C'est ça la définition. Chez Kaufmann, on mène l'aventure en famille. Pas pour vous.
Elle veut pas,
pas
être
pour
une...
elle.
Elle ne veut pas être une petite femelle qui restera à la maison. Oui, qu'on va enfermer dans un lit, entre quatre murs et dans un certain rôle, qu'on empêchera de courir, qu'on empêchera d'aller pêcher avec des hommes, avec des hordes d'hommes, comme on dit. Elle veut connaître le monde des hommes, qui est un monde puissant, qui est un monde de plein pied avec la vie, qui pourrait aller la vraie vie.
C'est pas la vraie vie.
La vraie physique.
Paul Kaufmann va bondir. C'est pas la vraie vie. La vie avec les enfants, avec la vie qui a produit tant de littérature aussi.
Et bien pour certains, ça l'est. Et pour certains, non.
Vous la définissez non pas comme une aventurière, le mot aventure, hein, il apparaît, mais par le mot de runaway. Quel sens vous lui donnez? C'est fuyard, fugitive, le runaway.
Oui, runaway, c'est fugitif, fugueur, c'est celui qui est parti, qui s'enfuit de quelque part.
Elle fuit quelque chose de Manosque.
Peut-être qu'elle fuit quelque chose, mais elle veut aussi aller, peut-être surtout aller vers quelque chose d'autre.
Mais qu'on n'explique pas vraiment dans le livre. Il y a toujours ce toit du monde qui revient sans arrêt. C'est le bout. Après, il n'y a plus rien, seulement la mer polaire et la banquise. M'asseoir au bout, tout en haut du monde, j'imagine toujours que je laisserai pendre mes jambes dans le vide. Je mangerai une glace ou du pop-corn, je fumerai une cigarette, je regarderai. Je saurai bien que je ne peux pas aller plus loin parce que la Terre est finie. Il y a cette quête du bout du monde presque vain, parce qu'après, elle tombe. Elle explique qu'après, on tombe.
Eh bien, c'est partir assez loin. Et on se dit, est-ce que je saute? Et donc, c'est, je vais quitter donc tout l'ordre établi, tout l'ordre des choses. Et est-ce que je saute, c'est-à-dire je meurs? Ou est-ce que je trouve quelque chose qui vaille la peine de vivre? Donc, elle reste assez longtemps sur cette idée. Je vais aller au bout du monde, je vais sauter. Ou alors, je redescends, j'irai pêcher. Donc, ça va donner un sens à la vie.
Le mot aventure est surgi au détour d'une phrase, Catherine Poulain, accompagnée du mot péché. Alors, t'as laissé ton pays pour venir pêcher l'aventure. Qu'est-ce qu'il a de si stimulant pour votre imaginaire, ce mot péché? Vous parlez des gestes qu'on fait, vous parlez de la matière, des poissons.
La pêche est un métier très premier. On donne toutes ses forces jusqu'à l'épuisement, on doit surmonter sa fatigue, on doit toujours se dépasser. On affronte cet océan qui est absolument démesuré. On combat, mais on ne peut pas combattre l'océan, il sera toujours plus puissant, ce sont les forces de la vie. Et on est sans arrêt dans le sang. Une question aussi énorme, ce sang, est-ce que l'homme est venu de la mer? Nous venons de la mer, nous sommes nés dans... C'est notre berceau aussi, le berceau de l'humanité. Et quelqu'un m'a dit un jour, lorsque l'homme est retourné à la mer, c'est avec un couteau.
Est-ce qu'il n'y a pas une part, vous comparez ce grand marin à Sisyphe ou à Prométhée, donc qui se faisait manger le foie chaque jour par un aigle, par un animal, la présence de l'animal, de la bête aussi est au cœur du livre. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de mythologique et même de tragique finalement dans cette course de Jude, le grand marin, dans cette course de Lily, le mot course revient sans arrêt, on court jusqu'au bord du monde et ensuite on tombe. Est-ce que finalement dans cette course à l'aventure, il n'y a pas une grande partie de tragique?
Et bien sûr, oui. Et tous courent. C'est pour ça aussi que je n'ai pas donné les raisons du départ de Lily. Je me dis, c'est un personnage comme les autres. Elle fuit ou elle veut aller vers. Mais comme ces autres personnages du livre, qui partent en Alaska justement pour découvrir où se trouver Steve, devenir un homme. Je rêvais de devenir un homme, il dit. Les vétérans du Vietnam qui ne peuvent plus vivre avec ces flashbacks épouvantables. Il faut se battre contre ses propres angoisses, ses propres contre le monstre, la bête à l'intérieur, l'horreur qui est là, qui a été là, l'horreur...
Et... C'est aussi pour ça que vous écrivez ce livre, Catherine Poulain?
Non, pas pour combattre mes propres... Je voulais l'écrire tout simplement. Il y a toujours une urgence à écrire. Et je me suis dit, je dois parler d'eux. Quelque chose est difficile parce que je me disais, j'aurais tellement aimé faire un roman. Et en même temps, je me disais, est-ce que je leur dois pas aussi de parler de leur vie, leur raconter leur folie, raconter leur. Ne pas donner de raison aux choses, ne pas donner d'explication. Juste exposer comme ça. Et il y a certaines scènes, et évidemment des choses que j'ai inventées ou que j'ai. Et j'avais l'impression, je me disais, est-ce que je suis honnête? Parce que, avant tout, je me disais, j'ai pas le droit de mentir. Donc c'était compliqué.
Est-ce que je repartirai un jour, demande-t-on à votre héroïne, et vous, Catherine Poulain, est-ce que vous partirez un jour sur cette mer?
Sur cette mer, je ne sais pas.
Christian Garcin, vous comprenez, puisque votre personnage, Jeremiah Reynolds, est aussi ce personnage qui expérimente les limites, qui a une part de folie aussi, peut-être en lui. Vous comprenez ce que dit Catherine Poulain sur cette part de tragique, de mythologique aussi, d'absurde, de conditions camusienne, c'est Sisyphe qui renaît à travers ce personnage de l'aventurier. Jérémia n'échappe pas à ça.
Ah non, il n'échappe pas du tout. Mais dans le roman de Catherine Poulain, il y a aussi cette dimension tragique, effectivement, du combat avec la bête. Les scènes de chasse au flétan sont saisissantes, quand même. Enfin, de chasse, pas de chasse.
De pêche, mais de pêche, couteau, mais le couteau est là.
Puis de corps à corps, quoi, avec cette saison de poissons. Oui, Jérémia Reynolds, bien entendu, c'est aussi un de ceux qui ont voulu expérimenter, aller le plus loin possible, de faire des contrées inconnues pour une espèce de folie intérieure, sans doute, et puis aussi quelque chose de raisonné, beaucoup plus terre à terre, qui était de faire du commerce, hein, voilà, explorer les mers du Sud et s'enrichir.
Ce qui est le cas aussi d'ailleurs de la pêche en Alaska. Hein. Alors on va le découvrir un peu mieux, ce Jérémia Reynolds, qui a existé, hein, qui est un personnage réel, essayiste, aventurier, inspirateur de littérature aussi. Vous faites paraître ce livre chez Stock. On en parle, on écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Fantastic Voyage de David Bowie.
In the event that this fantastic voyage turn to erosion, and we never get old. Remember, it's true. Dignity is valuable, but our lives are valuable too. We're learning to live with somebody's depression. And I don't want to live with somebody's depression.
We'll get by, I suppose.
It's a very modern world,
but nobody's perfect.
It's a moving world,
but that's no reason.
Shoot some of those missiles. Think of us as fatherless scum. It won't be forgotten.
Goods will never say anything.
Fantastic Voyage de David Bowie, There is no reason, dit-il dans cette chanson, c'est votre choix, Christian Garcin. Vous publiez Les vies multiples de Jérémia Reynolds chez Stock. Pourquoi ce choix, mis à part ce titre, Voyage fantastique?
Bah pour le titre et pour l'interprète.
Et puis pour un hommage à Bowie,
bah
encore.
Oui, quand même, parce que bon, quand même, dans les années 80, je dois dire que je l'ai tellement écouté et connu par cœur que voilà. Et puis le titre, Fantastic Voyage, ça correspondait assez bien à ce qu'a effectué mon personnage.
Jérémia Reynolds. Alors, Les vies multiples de Jérémia Reynolds, c'est un livre, un roman, un récit. C'est étrange aussi dans la forme, puisque vous scandez en plus le nom de Jérémia Reynolds. Alors, Les Indiens et Jérémia Reynolds. Les enfances de Jérémia Reynolds, l'expédition antarctique de Jérémia Reynolds, les rêves de Samuel Lewis, on va en parler de Samuel Lewis, les tourments de Jérémia Reynolds, vous scandez son nom, on le suit à travers toute sa vie, de 1812 à peu près à 1858, même s'il est né en 1799. Il a existé, il a été tour à tour un fougueux explorateur, un conférencier, un avocat, un homme d'affaires, il a connu la guerre en Amérique latine, les mers antarctiques, vous vous rappeliez que c'est peut-être été le premier à fouler vraiment le sol de l'Antarctique. Ça, vous insistez là-dessus. Hein. C'est, tous les autres n'étaient que des... Ils ont tenté, lui l'a vraiment fait.
Oh, mais ils ont tenté, mais après, hein, parce qu'à cette époque-là, l'Antarctique, on savait que ça existait, mais personne n'y avait accédé encore. Hein. Il y avait un chasseur de phoques, nommé John Davis, qui prétendait que quelques années plus tôt, il avait mis le pied sur le continent, mais les gens disaient que c'était plutôt sur une des îles qui était détachée du continent. Et lorsque Reynolds se rend en Antarctique, pour d'autres raisons, pas du tout dans un but d'être le premier homme, tout cela ne l'intéressait assez peu, je pense. Il fait naufrage et il reste 5 jours bloqué dans des conditions épouvantables sur ce qui est sans doute le continent antarctique, sur lequel on ne mettra officiellement le pied que bien plus tard, hein, c'est-à-dire plusieurs décennies plus tard.
Alors c'est un livre curieux, d'une lecture agréable, il y a beaucoup d'humour hein, aussi, prenez de la distance avec ce personnage, parfois un peu de... Oui, pas de surplomb, mais un petit peu de... D'une ironie sympathique envers ce type, en fait, qui veut vivre des aventures, qui parfois rate, qui prend des chemins qui étaient prévus, des aventures qu'il avait prévues, et puis qui se retrouve, voilà, chez les Indiens Mapuche, du côté du Chili, du côté de l'Amérique latine, en chef de guerre, d'une guerre qui n'est pas la sienne, une guerre d'Indiens. Quel regard vous portez sur lui? On a l'impression, parfois, d'un cabinet de curiosité, ce livre, d'un diorama.
On peut dire ça, c'est-à-dire qu'il a un destin qui est tellement effectivement kaléidoscopique, quoi, avec des expériences personnelles, professionnelles, professionnelles, oui, on peut le dire, puisqu'il a gagné sa vie de diverses manières, aventureuses, tellement diverses et différentes les unes des autres, semblant être à la fois explorateur, avocat, marin, colonel, ces expériences de vie tellement diverses qui se sont enchaînées les unes aux autres, effectivement, ça laisse porter sur lui un regard. On essaie de trouver le ciment qui unit tout ça. Voilà.
Vous connaissiez ce personnage, Jean-Paul Kaufmann
Non, mais j'ai lu ce livre que j'ai beaucoup aimé. Et justement, là, vous parliez tout à l'heure là, de cette distance ironique. Ça m'a bien plu. Il y a cet humour là. Et puis, bon, ce que j'ai aimé aussi dans ce livre-là, vous parlez des aventures de Gordon Pym, hein, et c'est aussi un livre qui m'a beaucoup intéressé, moi, quand j'ai écrit sur les Kerguelen, hein, qui est au seuil de l'Antarctique, et j'ai eu l'impression parfois qu'il y avait un côté un peu borgésien, là, dans cette... Mmh. Vous avez écrit un livre sur Borges, mmh. Hein, dans cette,
dans
cette ironie, dans cette distance, et une sorte de réinvention, là, d'une vie.
Je n'y pensais pas, mais alors, ça pourrait se faire. Parce qu'effectivement, Borges est un de mes auteurs de prédilection, bien entendu. Enfin, le destin...
C'est un livre sur la littérature, en fait. C'est peut-être aussi qui fait parler de Borges aussi à Kaufmann. C'est-à-dire que...
Sur l'histoire et la littérature,
voilà,
et la géographie.
Mais à la différence de Borges, il a vraiment rencontré Edgar Poe. Mmh. Et puis, il a failli, finalement, vivre l'aventure de Moby Dick. Il l'a écrite. Mmh. Mmh. Mais il a failli la vivre aussi.
Enfin, qu'il a écrit un livre. Qui évidemment n'a pas ni le format, ni la dimension métaphysique, ni encyclopédique de Moby Dick, mais qui raconte un roman un peu à la Conrad, où le second d'un navire raconte à l'équipage qui est rassemblé autour de lui dans la lumière des lampes tempêtes, raconte l'histoire d'une chasse au cachalot blanc, nommé Mochadik, donc. En gros, le livre n'est que ça, quoi, voilà. Mais ça a été publié 14 ans avant Moby Dick.
Mais est-ce qu'il a vécu, finalement, cette chasse au cachalot, ou finalement, la ville l'a empêché, finalement, de la vivre, puisqu'il s'est retrouvé dans ce conflit avec les Indiens?
Voilà, donc, il ne l'aurait pas vécu. Alors, j'emploie des conditionnels, parce qu'évidemment, c'est un personnage qui a existé, sur lequel des faits sont avérés, mais très peu. Évidemment, moi, dans ce livre, donc, je me suis promené dans les zones d'ombre aussi que permettaient les lacunes de sa biographie pour les combler et donner un semblant de cohérence à tout cela. Alors, la chasse au cachalot blanc, apparemment, il ne l'a pas vécu, on l'a lui raconté. Mmh.
Alors, j'aimerais qu'on vous écoute lire un passage de ces vies multiples de Jeremiah Reynolds. Justement, il est là à écouter ce personnage qui s'appelle Lewis et qui lui raconte son grand projet d'aller traquer et peut-être harponner et tuer ce cachalot albinos.
Alors Lewis était donc le second du navire sur lequel avait embarqué Jeremiah Reynolds pour se rendre en Patagonie chilienne. Un soir qu'il terminait de raconter pour la énième fois une de ses parties de chasse au cours desquelles héroïsme, effroi, excitation et danger s'attiraient et se mêlaient inextricablement, il eut un silence. Lewis paraissait hésiter. Il fit mine de réfléchir, considéra attentivement Reynolds, se souvint des circonstances du naufrage antarctique de l'homme qui, en face de lui, buvait ses paroles, circonstances dont il estimait qu'elles forçaient le respect, et sembla soudain se résoudre à aller de l'avant. Il baissa le ton et lui confia qu'il avait un projet. Il raconta que nageait dans les parages de l'île Mocha, qu'ils avaient longé sur le chemin allé, à environ 1500 miles au nord, une baleine mythique, un grand cachalot albinos, qui depuis des années avait survécu à de multiples harponnages. Plus d'une centaine, disait-il. Il était incroyablement grand et puissant, beaucoup plus que les cachalots ordinaires. D'une seule nageoire, il pouvait faire chavirer barques et chaloupes. Lewis l'avait vu et approché, il avait lui-même participé à une de ses chasses, et le cachalot gardait sur son dos, qu'il avait couvert de tant de bernacles qu'il ressemblait à un gigantesque rocher, le vestige de son harpon qui était resté fiché parmi des dizaines d'autres. L'animal le fascinait au point qu'il en rêvait fréquemment. C'était devenu une obsession, il s'était juré de le poursuivre à nouveau et de le vaincre. Il livra à Reynolds son projet, qu'il serait seul à bord à connaître. Vers le voyage de retour vers Valparaiso, il débarquerait au port de Tirúa, face à l'île Mocha, où l'Adventure devait faire halte, quitterait le navire, affréterait un baleinier et se lancerait à la poursuite du grand cachalot blanc. Il y avait là le rêve ultime et millénaire de la chasse, bien entendu, le face-à-face haletant avec cet animal qui avait résisté à tout et à tous, ce farouche vieux mâle dont il était persuadé que quelque chose d'indicible et mystérieux l'unissait à lui depuis bien avant sa naissance. Mais il y avait aussi, d'un point de vue plus strictement économique, les centaines de barils d'huile que fournissait la graisse du puissant cachalot, le spermaceti, la substance cireuse contenue dans sa tête, dont on faisait bougies et savons, et l'ambre gris qui se formait dans son intestin et qu'on utilisait pour les parfums, tout cela revendu à très bon prix, selon des circuits qu'il connaissait. Or, voici, il avait besoin d'un second.
Alors, vous mettez l'accent sur le grand duel de l'homme et l'animal, le souvenir du harpon fiché dans la peau de la bête, hein, du Léviathan. Au fond, ça, c'est Moby Dick. Oui. Alors, vous dites, j'utilise le conditionnel, est-ce qu'il a vraiment... ce Jeremiah Reynolds, dont je répète qu'il a existé, finalement, inspiré, qui a écrit sur Mocha Dick. Oui, est-ce qu'il a vraiment inspiré, comme il a inspiré Poe, ça vous ne faites pas de... Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Il y a vérité là-dessus. Ils sont connus,
disons qu'il y a une très forte probabilité. Ouais. Quoi,
ouais. Et sur Melville, alors ?
Alors, il n'y a rien, nulle part, qui indique que Melville ait connu le Mocha Dick, le livre Mocha Dick de Jeremiah Reynolds. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas connu, mais il n'y a rien qui ne l'indique. La source, une des sources les plus connues du roman de Melville serait le naufrage de l'Essex, dont on a fait un film récemment, qui était causé par un cachalot noir d'ailleurs, non pas blanc. Ça, Melville lui-même en parle, il en parle dans Moby Dick d'ailleurs. Il a rencontré le fils d'un des marins qui avait été naufragé sur le navire Essex. Bien, mais il ne parle nulle part de Mocha Dick. Cependant, il est... quand même assez improbable qu'il n'ait pas connu au moins le nom du cachalot lui-même, Mocha Dick, pour nommer son personnage, j'allais dire, Moby Dick. Voilà. Mais qu'il ait lu le livre de Reynolds, rien ne l'indique.
Alors, votre livre ne cesse de montrer ces liaisons dangereuses mais fructueuses entre la littérature et l'aventure. Donc, c'est vrai que Edgar Poe, sur son lit de mort... mentionne à plusieurs reprises le nom de Reynolds. Reynolds, oui. Reynolds, Reynolds.
Disons que les dernières paroles d'Edgar Poe, enfin, les avant-dernières, puisque les dernières, c'est Lord have mercy, ce qui est assez peu romanesque, mais les avant-dernières, c'est d'après le rapport du docteur Moran, qui était à côté de lui, c'est effectivement une triple injonction, un triple appel, Reynolds, 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 et personne ne sait vraiment de quel Reynolds il s'agit. Et bon, maintenant, il y a une hypothèse supplémentaire, ou tu vois, la première hypothèse, en tout cas, je pense, qui est celle qui consiste à dire qu'il s'agirait peut-être de Jeremiah Reynolds, qu'il a très certainement rencontré, il n'y a presque aucun doute là-dessus, et dont le naufrage en Antarctique a été une des, non pas une des sources, mais a été retravaillé, un des modèles de certains passages des aventures d'Arthur Gordon Pym, voire même, par moments, les aventures dans le manuscrit trouvé dans une bouteille, il y a également des scènes qui peuvent être inspirées de la vie de Reynolds.
Christian Garcin, ça commence fort, votre livre, avec ce personnage qui cherche presque son Dickens, qui regarde les hommes qui se sont moqués de lui parce qu'il a laissé tomber un tronc, il hale des troncs, c'est un homme très, très physique, qui dit « Mais vous verrez, un jour vous serez fiers de m'avoir connu ». Curieusement, vous ne commencez pas par Reynolds, vous commencez par un autre personnage, Symes, personnage d'aventurier lui aussi, mais qui a la particularité d'avoir écrit la première utopian fiction, fiction utopique de la littérature américaine. Faut-il y voir chez vous l'idée que ce n'est pas la littérature qui a besoin d'une aventure pour devenir un récit, mais au contraire, l'aventure qui a besoin de la littérature pour s'enclencher ?
Non, enfin, je pense pas que... Non, les deux peuvent à l'occasion faire très bon ménage, voilà, disons. Symes est un militaire, un capitaine des guerres anglo-américaines, qui a élaboré une théorie, qui était issue d'une théorie de Edmund Halley, celui de la comète, une théorie selon laquelle, la théorie de la Terre creuse, selon laquelle la Terre était creuse, à l'intérieur, sous la surface terrestre, il y avait une autre Terre qui était probablement habitée, certainement habitable, et à laquelle on accédait par les pôles. Voilà. Donc il était... C'était pas vraiment un aventurier, enfin si, un militaire, d'une certaine manière, est un peu un aventurier.
Ah, il y a des combats,
Au début,
contre les Anglais, il tient un fort quand même.
Pendant les guerres anglo-américaines, c'est un capitaine renommé pour son courage et sa bravoure, mais ensuite il ne part pas lui-même.
Sauf que c'est sa fiction qui va faire germer chez Jeremiah Reynolds l'envie d'aventure.
Oui, disons que Reynolds est sans doute quelqu'un qui est extrêmement dynamique, entreprenant et qui a envie d'aventure, qui a envie de partir, comme ce qu'on disait tout à l'heure à propos du roman de Catherine Poulain, c'est-à-dire du livre de Catherine Poulain. Quelqu'un qui a besoin d'aller au bout, qui a besoin de partir, qui a besoin d'explorer, d'expérimenter. Et il rencontre Symes, qui veut monter des expéditions pour se rendre vers l'Antarctique, continent inexploré, donc dans la mer du Sud, afin d'aller vérifier le bien fondé de sa théorie, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait un trou au pôle Sud qui permettrait d'accéder à la Terre creuse. Donc, il s'agrippe sur ce projet-là pour pouvoir partir vers plein Sud.
Je vous cite Christian Garcin, c'était la fin de ce livre. On parlait du nom tout à l'heure, de la puissance des noms, le fait d'avoir martelé comme ça à chaque chapitre le nom de Reynolds. Il y a quelque chose aussi chez vous de presque séminal, littérairement parlé, dans Jeremiah Reynolds.
Incantatoire, peut-être, ouais. Effectivement. Redonner à ce personnage totalement oublié, scander son nom pour qu'il reste dans nos mémoires.
Sur son lit de mort, il faut bien qu'il meure, hein, Jeremiah Reynolds. Je vous cite, et ça me donnera l'occasion de vous poser une question de conclusion à vous trois. Tout s'était rassemblé dans les boiseries claires d'une chambre quelque part dans le Bronx, la silhouette blanche de Mary, l'ombre des grands arbres et le goût de la limonade. De plus, le souvenir de quelques lectures passées venait interférer, de sorte qu'il ne savait plus très bien s'il avait vécu lui-même telle ou telle situation, ou s'il l'avait simplement imaginée en tournant les pages d'un livre, l'œil de l'esprit remplaçant au fil des ans la vaillance du corps et la force des souvenirs directs. Était-ce lui qui avait pénétré les mondes souterrains au-delà du pôle ou l'avait-il lu quelque part? Avait-il vraiment participé à des combats armés au centre du Chili? Vraiment débarqué sur les terres glacées d'un continent inconnu? Et ça continue, ça continue. Pourquoi avoir finalement terminé votre roman sur le constat que toutes les vies humaines, qu'elles étaient aventureuses et fougueuses ou qu'elles étaient plates et sédentaires, se résument finalement aux mêmes images et à la même intrication de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a lu, comme si le mot aventure était lui-même désactivé?
Ah, parce que c'est une conviction que j'ai, alors, vraiment. Je pense qu'à la fin, enfin, le personnage de Reynolds, en tout cas, à la fin de sa vie, effectivement, ne sait plus trop faire le tri entre ce qu'il a vu, vécu, imaginé, intériorisé. Et les dernières images qu'on emporte, je peux pas en parler puisque par définition je n'en sais rien, mais j'ai la conviction que les dernières images qu'on emporte ne sont pas forcément celles qui auront été le plus extraordinaires, marquantes,
mais surtout réelles ou lues.
Mais voilà, ça peut être des images d'abord de choses extrêmement anodines et passagères et futiles, mais aussi des choses imaginées qu'on a intériorisées.
Alors à quoi bon, et là je me tourne vers Catherine Poulain et vers Jean-Paul Kaufmann, alors à quoi bon s'aventurer, Catherine Poulain?
Eh bien, parce qu'on est vivant, parce que la vie est courte, parce qu'il faut, se remplir le plus possible de tout, de tout, de tout.
Mais si à la fin, tout est pareil, si à la fin les souvenirs de lecture suffisent,
mais vous l'avez
pourquoi
dit,
ne pas lire?
L'important, c'est pas la fin, c'est le chemin.
On aura eu cette exaltation, on aura brûlé. Et à la fin, c'est vrai que tous ces voyages, c'est vrai, j'ai beaucoup voyagé. Je me dis parfois, ça m'a servi à rien, ça n'a changé à rien, ça n'a rien changé, mais c'est là.
Jean-Paul Kaufmann.
Bah, je sais pas, simplement le bonheur d'être vivant, c'est tout. C'est pas mal.
Ah ouais.
Donc il faut sortir de sa chambre, quitter les bibliothèques.
Pas forcément, on peut faire des merveilleux voyages dans sa chambre. D'ailleurs, j'en suis de plus en plus convaincu. Il y a quelque chose, bon, moi je me dis parfois, de vain dans ces... Allez, bah, personnellement. Mais oui, on revient toujours... oui, dans sa chambre.
Et donc, les souvenirs littéraires se mêlent aux souvenirs de la vraie vie, au fond, voilà, encore une des magies.
La vie pleinement vécue. Hein.
Comme disait
Marcel Proust.
Marcel Proust, exactement. Merci beaucoup, on se quitte là-dessus. Merci à tous les trois. Je rappelle le titre de vos livres, Christian Garcin, Les vies multiples de Jeremiah Reynolds, c'est publié chez Stock. Jean-Paul Kaufmann, Outre-Terre, c'est publié aux éditions des Équateurs. Et Catherine Poulain, Le Grand Marin, aux éditions de l'Olivier. Merci à vous trois.
Merci.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et Olivier Dupré à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette émission sur l'aventure. Je vous retrouve dès lundi pour une autre aventure, le temps des libraires à 10h55.